Donc, si on a refusé au Ramazé, eh bien, il faudra revenir. Attendez, là, ici, on touche à un autre sujet, mais on a touché trop rapidement. Okay? Mais comprenez que c'est un sujet pour lui-même. Et alors, s'il y a un mérite suffisant, Srut Gadol Meod, comme a dit le Maharal, alors il y a ce qu'on appelle les Shtei Shulchanot, la table de ce monde-ci et la table du monde à venir, le banquet, okay? dans le sens un peu de platonicien. La table de ce monde-ci et la table de Olam Haba, Shtei Shulchanot. Mais, a priori, Jacob est à l'aise dans Olam Haba, Esaü est chez lui, dans Olam Hazé. C'est ça qu'on veut nous dire. Okay? Et par conséquent, l'hébreu chez le romain ne peut être qu'avec les anim, c'est ça qu'il veut dire. Et même s'il est riche, c'est un autre problème. Bon, est-ce que c'est clair? Et alors on voit que finalement, l'objectif c'est d'être nommé Israël. Et Israël, c'est les deux. Israël, c'est au-delà de Jacob. Jacob, c'est la dimension Rouhani, Esav, c'est la dimension Gashmi, et à ce niveau-là, Jacob a réussi d'être le tzaddik de sa propre dimension, Esav a réussi d'être le rachar de sa propre dimension, et puis quand les deux dimensions sont unifiées, ça s'appelle Yemot HaMashiach, la transition entre l'un et l'autre, Yael l'un et l'autre, okay? Ça fait Kiyom, ça fait Klagla, et là, ça s'appelle Israël. Bon, alors, je reviens au texte. Vehu kemo he'ani. Et lui, le Mashiach, est comme ce pauvre, je cherche encore un mot en français, le démuni. Voilà. Celui qui est démuni, she'eno alamazé, qui n'a pas de part à ce monde-ci. Ou ben sovle holaim. Et par conséquent, il est parmi ceux qui souffrent de cela. Vous comprenez, les gens de ce monde-ci qui sont privés d'appétit sont pleins. Alors lui est avec eux. Il est comme eux avec eux. Ça ne veut pas dire que ça lui manque les valeurs de ce monde-ci. Mais il est comme cela, parmi ceux-là. Est-ce que c'est clair ce que je veux dire? Je vais vous raconter ce que. J'ai quand même apporté une précision. Hein? Ça veut dire que le Mashiach n'a pas mal de ne pas avoir les jouissances de ce monde-ci. Il sait que c'est Havel Havalim. Que c'est des fantasmes, en fait. C'est pas des jouissances, c'est des. Comment vous dites là dans le vocabulaire spécialisé? C'est des. Vanité. Des ersatz de bonheur. Donc. Mais. Comment dire? Mais il est dans ce monde-ci, dans l'expérience existentielle de ceux à qui ça manque et parce que ça manque, ils en ont mal. Je sais pas si c'était suffisamment clair. Bon. Et chez Yesh Lahem, il n'a que doute, mina ou la mazé. Chez Haré, hem et Dukaïm, becholi. Ils sont en problème avec ce monde-ci, puisqu'ils vivent en conscience malheureuse. Okay? Si vous voulez, que le Mashiach est avec les malheureux de ce monde-ci, ceux qui sont malheureux d'être dans ce monde-ci. Mais ça ne veut pas dire que lui est malheureux de ne pas avoir les jouissances de ce monde-ci, il est avec eux, avec ceux-là. Vous vous rappelez un peu formellement ce que dit la Mishnah des Pirkei Avot. Altihu ka avadim avdim et arav almenat le kabel peras, ela ihu ka avadim avdim et arav shelo almenat le kabel peras. Je vous traduis. La Mishnah dit ne soyez pas comme ces serviteurs qui servent le maître en vue d'avoir un salaire, mais soyez comme ceux qui servent le maître, pas en vue d'avoir un salaire. Alors pourquoi s'exprimer comme ça de façon aussi détournée? Parce qu'il y a un salaire. Alors la Mishnah veut dire, ne soyez pas comme ceux qui attendent le salaire. Et il y a un salaire, ils ont raison. Mais ne soyez pas comme eux. Soyez plutôt comme ceux qui n'attendent pas de salaire. Ils ont tort parce qu'il y a un salaire. Et c'est clair? C'est un peu ça, un peu formellement. Bon. Et je crois qu'on peut diagnostiquer cela dans la tendance générale, sociopolitique, de l'engagement sociopolitique des Juifs, d'aller naturellement vers cela, d'aller naturellement se ranger avec les Anim et les Soblem. Okay? Dès que vous avez, un contestataire de ce monde-ci, parce qu'en situation de manque, okay? Alors les Juifs disent, je suis avec toi. Mais c'est une position dangereuse, il faut l'élucider. Parce que ça veut dire contester ce monde-ci? C'est quand même le Dieu unique qui l'a créé. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Bon. Hein? Ah, peut-être, oui. Oui, si je me référais à quelque chose que j'ai lu dans un des comptes rendus des colloques CJM, probablement sur l'Occident, de la leçon de Levinas. Je ne me rappelle plus le détail dans la mémoire, mais vous pouvez retrouver dans, si c'est déjà édité. Okay? Mais lui, il a exagéré. Il se félicite d'être un juif de Rome. Au moins, le Messie sort de Rome. Ça veut dire, c'est de Rome qu'il sort. Oui, mais il faut qu'il en sorte. Okay? Vous comprenez là, il exagère. Quoique, Levinas, passé 70 ans, ça s'améliore. Je veux dire, ça se rapproche de Jérusalem. Okay? Vous remarquez cela? On en est très satisfait, d'ailleurs. Mais est-ce que c'est des textes de complaisance? J'en sais rien. Okay? Puisque c'est après 70 ans, c'est peut-être pas des textes de complaisance. Et qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, oui, c'est cette phrase, à cette phrase que je me dis.
Il y avait au moins cela, même si c'est égalité ensuite.
Oui, oui, mais il y avait... Oui, mais reprenez ce texte, et si vous pouvez le retrouver d'ici dimanche, on le relira ensemble. Il y avait une phrase, pardon.
L'égalité a été politique, elle n'a pas été...
Attendez, je m'excuse, pas de triangle parce qu'on va perdre de temps. Ça y est, s'il vous plaît. Il y avait dans cette phrase une espèce de justification et pas seulement de définition. C'est ce qui m'a frappé. Bon, je me trompe peut-être, je suis peut-être subjectif, il faudrait retrouver le texte. C'est pourquoi j'ai parlé de complaisance. Non, je crois que la légalité romaine est arrivée à la barbarie et que bien sûr. Il nous aurait suffi d'en sortir au 11e, 12e, 13e siècle. Avec Abravanel, ça aurait suffi. On avait déjà appris ce qu'il fallait apprendre. Okay? Mais rester dans cette complaisance jusqu'au bout, on a traversé la preuve que la légalité romaine, c'est de la barbarie. Alors, c'est là que nous sommes un peu différents. Très très bien, oui, c'est ça. Tu as raison.
Mais les Romains, parce qu'ils sont formellement à l'abri de l'égalité, même si cette égalité est effectivement...
Barbare. Mais ça, il ne l'a pas dit. C'est là que nous sommes un peu différents, parce que c'est ça que j'appelle la complaisance.
Quel texte?
Eh bien, le colloque sur l'Occident. Alors, quelle année
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans.
Il y a 2 ans, oui. Moi, je n'y étais pas, j'ai lu le texte. Ça m'a fait plaisir de voir l'analyse maharalienne qu'a fait Lévin, ça, il n'y a pas de doute. Seulement, il l'a fait peut-être sur cette phrase avec un peu de complaisance. Parce que, je vais vous dire à quoi je pense, c'est que nous avons eu une fois un dialogue, et ce que je vous dis, je pourrais le dire en sa présence, donc il n'y a pas de problème, parce que je lui ai déjà dit. Un dialogue à propos de l'amitié judéo-chrétienne. Et on s'expliquait pourquoi je refuse systématiquement d'en faire partie. Je refuse pas d'aller parler à l'amitié judéo-chrétienne, c'est notre problème, alors que lui en fait partie du point de vue constitutif même. Alors il me dit, vous comprenez, quand même chez les chrétiens, on parle de la Bible. Je dis, mais laquelle? Quand même chez les chrétiens, quand on dit Adam, Ève, on sait de quoi on parle, vous croyez? Je crois qu'il y a de la complaisance là. Qui est un phénomène important de convivialité entre juifs et chrétiens vivant dans la même cité, la cité française, c'est tout à fait normal. Et qu'on parle d'amitié entre juifs et chrétiens, et qu'on gère cette amitié, je suis pour. Okay? Mais cette espèce de syncrétisme flou dont on se défend, et on se défend avec une véhémence suspecte, okay? Amitié judéo-chrétienne, comme s'il y avait quelque chose de commun entre judaïsme et christianisme, alors ça, c'est de la complaisance. Vous comprenez ce que je voulais dire? Alors je crains que cette complaisance va jusque-là. C'est-à-dire je crois que, voilà, M. Levinas a une grande qualité. C'est la pudeur d'une intelligence très forte par rapport à tout ce qui pourrait ressembler à de la mystique. Une grande qualité, mais qui a un peu son ombre. C'est qu'au fond, il a peur d'être mystique. Mais vous savez, quelqu'un qui a peur d'être mystique, c'est qu'il l'est. Bon. Et alors, là, il y a une espèce de langage de, langage de complaisance qui me gêne. C'est pas plus que je voulais dire. Voilà. On revient au...
Il m'a écouté, je le transfère. C'est une question sur le vieillissement. Vous avez dit, il a 70 ans.
Il a passé 70 ans. Ouais, je sais pas, mais presque.
Ça s'améliore.
Oui. Le vin vieux. Non, mais c'est vrai.
Non, ça a plus, d'ailleurs, il y a...
Si, c'est du vin.
Ça, c'est pas comme ça, parce qu'apparemment, des âges où ça s'améliore et d'autres où ça s'améliore pas. Parce que...
Ah non, non, mais oui, tu as raison, mais j'ai parlé, je me référais à ce que dit le Midrash à propos du Zaken, Zé Kana Chochma. C'est-à-dire, si c'est un vieillard, si c'est un vieux, c'est autre chose. Je veux dire, si c'est un Zaken, c'est... mais je crois que c'est son cas. Et en général, d'ailleurs, les vieillards s'adoucissent. Deviennent gentils. Et un Lévinas gentil, c'est important. Oui, oui, bon, on revient au texte, hein, parce que sinon, on s'en va. Alors, nous étions donc à cette phrase que le Mashiach, par définition, ira avec les démunis de ce monde-ci. Ça ne veut pas dire que lui est démuni de ce monde-ci, dans le même sens. Il sait très bien, encore une fois, que les jouissances de ce monde-ci, c'est des illusions. Il suffit de reprendre, et chaque fois j'y reviens, l'analyse qu'Épicure a faite du plaisir. Et je crois que, je vous parle donc d'Épicure, pas au niveau de l'épicurine grossier, okay, la grande philosophie d'Épicure. Il a fait une analyse du plaisir qui est très 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 pharisienne. Seulement, il cherche comme compensation un autre plaisir, qui est le plaisir intellectuel, et là il devient Épicuros, okay, parce qu'il n'a pas la foi, c'est un autre problème. Mais donc le Mashiach, n'est pas vraiment démuni des plaisirs de ce monde-ci, mais il est avec ceux qui ont l'expérience de ce dénuement, de ce dé... Oui. La Gemara cite à propos de Rabban Yochanan ben Zakkai, je pense, ou Rabbi... Je crois que c'est... Oui, Rabban Yochanan ben Zakkai. Hein? Non, c'est autre chose. Ça aussi, c'est... C'est autre chose. Je vais vous dire, vous allez peut-être retrouver qui, c'est ou lui ou Rabbi Shimon. Non, c'est pas Rabbi Shimon. Rabbi Shimon ben Gamliel. Ou c'est Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais je crois que c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai. Alors, à la fin de sa vie, Rabbi Yochanan ben Zakkai, sentant qu'il allait mourir, prend les tzitzit entre les mains et se met à pleurer. Alors, les élèves lui disent, Rabbi, tu vas pleurer parce que tu vas mourir. Qu'est-ce que tu vas regretter de ce monde-ci? Les cabarets, le centrachi. Et alors il leur dit, vous ne voyez pas que j'ai les tzitzit entre les mains? Ça veut dire, tant que je suis vivant de ce monde-ci, avec une mitzvah, je peux améliorer mon dossier. Mais une fois que j'aurai quitté ce monde-ci, le dossier est fermé. Et vous savez qu'est-ce que c'est prendre les tzitzit entre les mains? Ça veut dire toutes les mitzvot à la fois, puisque les tzitzit renvoient aux 613 mitzvot. Ça veut dire, cette identité messianique, Elle est reliée à ce monde-ci. Elle aime ce monde-ci, mais pas pour les plaisirs illusoires, les jouissances illusoires. Parce que ce monde-ci est très important. C'est le monde de la vie de passage, de l'examen de passage. Ce monde-ci, c'est Pessah. Et est-ce que c'est clair ce que je dis? C'est dans ce monde-ci que ça se passe. L'acquisition du mérite. Et avec une mitzvah, on peut améliorer son dossier. Mais à partir du moment où le dossier est fermé, il est fermé. Okay? Et alors on dépend de la descendance. Comment la descendance va améliorer le dossier? Pour se relier à une analyse d'hier, qui avait un autre sujet. Vous comprenez le problème? Bon. La descendance, ou les élèves, ça revient au même, c'est la descendance. Okay? Et en général, ça descend, danse. Okay? Bon. Bon, alors on revient au problème. Ça, je voulais quand même le préciser. Ça veut dire que c'est pas que le Mashiach souffre d'être démuni des richesses bourgeoises, pour le dire en termes de sociologie. Hein. C'est pas ça. Il est avec ceux qui souffrent de cela. Sa souffrance, à lui, elle est autre. On en parlera après. Donc. Et on continue. Veraou sheye yoshev a Mashiach beneim ratzalomar mitztaref laem ki gam a Mashiach. Pour d'autres raisons, le Mashiach n'a pas de part à l'histoire de ce monde-ci. Pour d'autres raisons que ceux qui en sont rejetés. Alors il est avec ceux qui en sont rejetés. Les fiches ma'alot Mashiach mina olam teva. Car les degrés, les valeurs de l'identité messianique ne sont pas de l'ordre de la nature. C'est-à-dire du déterminé, de l'impersonnel. Et c'est pourquoi il est relié au ani, au démuni, qui n'a pas de part, pour d'autres raisons, mais qui n'a pas de part dans ce monde-ci. ויושב גם כן בין סובלים חולאים. Et il se tient aussi avec ceux qui ont des douleurs, des plaies, les lépreux, si vous voulez. Chez Mitnagedlo, Olamateva, qui sont en contestant que le monde de la nature est contre lui. Vishnedevarim, Amar, Ben Aniim, Besovle Cholaim. Mais c'est les deux choses, les Aniim et les Sovle Cholaim. C'est-à-dire, ceux qui manquent de ce que la nature pourrait donner, et ceux qui reçoivent le contraire de ce que la nature pourrait donner, les démunis et les souffrants. Mitnaged laem olam hazeh. Top. Bekamar. Et alors ensuite le texte dit Uma simane. Bon, il est parmi les humbles et les souffrants. Mais quel est le signe par lequel je le reconnaîtrai? Lui, c'est pas qu'il est humble ou souffrant. Il est avec eux, mais lui, quel est son signe? C'est clair? Alors je continue. Beratzalomar, il a voulu dire qui m'a aidé lié je ben à Mashiach chez Mitnaged lo ateva. Quelle différence il y a pour l'identité du Mashiach que la nature est contre lui? Ou ben Shear sauve les cholaim. Et les autres souffrants, il faudrait ajouter un tab, chez Mitnaged Lahem Olamativei, vous avez Menaged, Ken, c'est Mitnaged Lahem Olamativei, que le monde naturel est contre eux, et Alze Amar, qui s'imman chez le Mashiach, à cela il répond que le signe du Mashiach, de Asar Had, Vesharé Had, Ad Sheumuchan Umzuman, Ligol Israël. Ça veut dire qu'il interdit une chose et il permet une autre jusqu'à ce qu'il soit prêt et préparé à délivrer Israël. Explication à venir tout de suite. Bechol Shahar, Efchar Shiavo Mashiach. À chaque heure, il est possible que le Mashiach vienne. Entendez bien cela, à chaque heure, depuis le début des 2000 ans. En question. Lechar Asach Had Beshare Had. Et c'est pourquoi il interdit un et il permet un. Mishum. Des lama me vainale, pour la raison pour laquelle nous avons besoin de lui. Vezemore, ça s'explique tout de suite. Vezemore, chez Namashiach, Yeshlochibur et la Olamaz. Et cela montre bien qu'il n'y a pas de lien d'identité entre le Mashiach et l'identité de ce monde-ci. Kim Haya Raoui la Olam, car s'il était de la normalité de ce monde, Vechol Asher Huba Olamazé, Yeshlozman Miyuchad. Et tout ce qui est de la normalité de ce monde-ci a son moment dans l'histoire. Imken lo haya omer kol shara. Et alors à ce moment-là, le texte n'aurait pas dit qu'à chaque heure, peut-être qu'on pourra le mériter, l'obtenir parce qu'on en a besoin. Ça veut dire que son heure est n'importe quand, dès que c'est possible. Il n'est pas de tel siècle. Il n'est pas de tel endroit. L'utopie par excellence, Ken, pour se raccorder au vocabulaire du séminaire. Parce qu'il n'est en réalité pas de l'ordre de ce monde-ci, mais il se dévoile, il se révèle, il émerge, il apparaît quand ce monde-ci a épuisé son histoire, quand ce monde-ci est arrivé ou à la réussite ou à l'échec. Mais dès le début, on a vu que c'est à l'échec qu'il arriverait. Parce que dans la société de droit romain, il y a des pauvres et des souffrants, etc. Vous voyez à peu près le diagnostic. וכאשר הנה התבונן בעניין המשיח שיצא לפועל, et lorsque Rabbi Yoshua ben Levi a compris suffisamment grâce au fait qu'il était à l'écoute d'Eliaou, vous vous rappelez, cette définition, à quel moment le Mashiach se dévoile dans la réalité, Matza, il a compris, il a trouvé que la réponse est qu'il y a Mashiach Omer, que le Mashiach est en train de dire chez Hayom Yavo, qu'aujourd'hui il vient. C'est-à-dire, il répond aujourd'hui le jour où on l'interroge. Est-ce que c'est clair? Bon. Qu'est-ce que j'ai sauté? Vecha Asher, Iné, Itbonen, Rabbi Yoshua ben Levi, Beinyan HaMashiach, Sheetze Lapoal, Matza, Ki HaMashiach Omer, Sheu Hayom Yavo. Et je n'ai pas encore traduit la suite. Ok? Nous avons le même texte, j'espère. Oui, oui. Et j'ai une fois une image pour d'autres choses. C'est un problème quand même très relié. Le problème de la lecture de la Torah. C'est-à-dire, et seront ces paroles que je t'enseigne aujourd'hui sur ton cœur. Vous rappelez du verset de Kretschmar. C'est-à-dire, le commentaire le plus direct dit, il faut que ces paroles soient pour toi révélées aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je te parle. Okay? Et alors, l'image qui m'était venue, c'est... imaginez que vous êtes à un quatrième étage, un soir, quand les lumières des voitures commencent à s'allumer. Et alors, vous êtes là, sur votre balcon, et puis vous voyez, venant de la gauche, des lumières jaunes, c'est les phares de l'avant, et puis ces mêmes voitures, quand elles s'éloignent vers la droite, c'est les phares de l'arrière, c'est les lumières rouges. Okay? Le présent est là où vous êtes. Okay? Ça y est, c'est clair? Ça veut dire, le temps de la lecture, c'est mon présent à moi, le lecteur. Et quand le texte dit aujourd'hui, c'est mon aujourd'hui à moi. Alors, c'est corollairement la même chose pour ce que dit le Maharal ici. C'est-à-dire, c'est le jour où j'interroge le Messie et je lui dis, quand est-ce que tu viens? Il me répond aujourd'hui. Quoi, aujourd'hui? Ben voilà, t'es pas venu, aujourd'hui est passé. Alors ça, c'est la suite qu'on va voir tout de suite. Mais d'abord, c'est aujourd'hui. Okay? Et c'est pourquoi, quand Rabbi Yehoshua ben Lévi a enfin compris que c'est le Mashiach lui-même qu'il faut interroger, non pas Eliyahu HaNavi, vous vous rappelez? Alors, et il entend la voix de la Shrina lui répondre. Okay? Alors, qu'est-ce qu'il entend? Il entend Hayom. Il dit, quand est-ce que tu viens? Il dit, aujourd'hui. Et on va voir la suite. Kenoma, Bezé Hayom, Kolyom, Shayashu Eloto. Quand il dit aujourd'hui, ça veut dire, chaque jour où il y a un homme capable de l'interroger, c'est ce jour-là qu'il peut venir. Parce que son temps n'est pas un temps de l'histoire. Son temps, c'est un temps d'accomplissement. Et vous voyez, par quel biais cela dépend du mérite. Est-ce que c'est clair ce que je dis là? Alors c'est très important de voir cela, la solidarité par rapport au problème du mérite de la génération entre Israël et ses goïms, et les goïms et son Israël. Vous vous rappelez? Parce qu'on a l'écorce de son fruit, le fruit de son écorce, et que n'importe quel jour la maturité aurait dû être possible. La maturation, là, comme ça on dit, aurait pu être possible. Pourquoi je vous ai cité d'Abravanel? Bien, ce sont des études qui n'ont pas encore été faites, en tout cas à ma connaissance, à l'université, mais qui ont leur place à la yeshiva, bien sûr, c'est la philosophie politique d'Abravanel à travers son commentaire de la Torah. C'est quelque chose de colossal. Okay? Alors déjà, au temps d'Abravanel, on n'avait plus besoin de Rome. Et il fallait sortir de l'écorce. Et à ce moment-là, l'écorce aurait été fruit. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que le fruit est devenu écorce. Okay? Vous avez compris le problème. Ça veut dire, Hayom. On continue. Qui ma'alato biltitui, car sa manière d'être, son niveau d'être est non naturel. Et que ça veut dire naturel, encore une fois, déterminé, impersonnel, pesanteur, tout ce que vous voudrez. Okay. Ou biltigashmi est pas matériel, klal du tout. Vadavar chez no gashmi, et ce qui n'est pas matériel, eno tachatazman, ne dépend pas du temps. Je suis en train de voir la montre. Ulcha chamasiyar. Et c'est pourquoi le Mashiach, Omer, Ayom Atina, dit, et il dit ça perpétuellement, c'est aujourd'hui que je viens. Il attend qu'on l'interroge, mais il a toujours la même réponse, c'est aujourd'hui que je viens. C'est clair. Vous voyez, c'est la parole du milieu. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire par là? Okay? Ce qu'il a à dire, c'est ce qui se relie à ce point du milieu qui n'a ni espace ni temps. Vous vous rappelez de ça? Et qui est le point d'insertion entre le monde de la vérité et le monde de la réalité. Et tu vas comprendre la vérité de ces paroles. Car ce sont des paroles claires quand tu les comprends. Bien sûr que si on ne les comprend pas, elles ne sont pas claires. Alors, je continue parce que je vais arriver à midi à terminer le chapitre. Et ensuite, nous aurons quand même un moment s'il y a des questions. Et par le fait que ce dont nous avons parlé là ne dépend pas d'une expérimentation empirique. Le Khusha Gashmi, ça veut dire les sensoriels. Aniglé, dévoilé. Ulcha, visible. Ulcha, haya omer zel Eliyahu. Zahor leto. Attendez, laissez-moi lire la phrase. Asher mevarer inyana mashiach. Ve'amar, shekuri meshaker. La saloma kenegada khusha aniglé. Bon. Alors, et c'est pourquoi. Lorsque Rabbi Yehoshua ben Lévi dit cela à Eliyahu HaNavi, voilà ce qu'il m'a dit, aujourd'hui. Et il le dit à Eliyahu, qui était en train de lui élucider ce problème de la venue, du dévoilement du Mashiach, Alors il lui a dit, il a menti un mensonge. Ça veut dire qu'Enigle d'Arkouche en anglais. Par rapport à ce qui est visible, c'est un mensonge. Rabbi Shimon ben Levi a demandé au Machiach, et quand tu viens? Il dit, aujourd'hui je viens. Et il dit, c'est ça qu'il t'a dit, il t'a dit un mensonge. Il t'a dit un mensonge, il m'a dit un mensonge. Par rapport à quoi? Par rapport à l'histoire dévoilée. Par rapport à l'histoire dévoilée, c'est pas dévoilé. Et Tcharé Loata, puisqu'il n'est pas venu. Ayom, aujourd'hui. Veshib Shekargu. Et il lui a répondu que c'est ainsi que cela doit être. Kibevadaï, Mitzada Mashiach Beatzmo. Car évidemment, du côté du Messie, du point de vue du Messie, et Nonofel Tahadazman, qui ne dépend pas de la structure du temps, ou Biato Kolyom, sa venue est toujours. Toujours, en deux mots, je veux dire. Chaque jour. N'importe quel jour, il peut venir. De ces 2000 ans, des jours où il peut venir. Rach Shetzarich Mekabel Mouchan. Mais il faut quelqu'un prêt à le rencontrer. Je veux dire, Mekabel, à recevoir sa venue. Les Kabel, venez à Mashiach. Sheim Aya Mekabel Raoui Lazé. Car si celui pour qui il doit venir était prêt, au Az Mitzad Mashiach en Kanzman. Du côté du Mashiach, il n'y a pas de problème de temps, il est là. Est-ce que c'est clair? Mais que tous ces moments où il y a eu des faux messianismes, ben c'était des moments messianiques, mais ils ont échoué du côté de ceux qui devaient recevoir le Messie, pas du côté du Messie qui pouvait venir à n'importe quel temps, puisqu'il peut venir pendant les jours de ces 2000 ans. C'est clair. Et en fin de compte, si on n'a pas mérité, alors il vient à la fin, et c'est à la fin qu'il vient. Mais à la fin, c'est parce qu'on n'a pas mérité. Mais autrement, c'est ayom, n'importe quel jour où on peut dire aujourd'hui. C'est-à-dire n'importe quel jour où on pose la question. Quand Rabbi Yehoshua ben Levi interroge en fin de compte le Messie et lui dit, et qui lui dit aujourd'hui c'est vrai. En quoi c'est pas vrai? C'est qu'aujourd'hui on n'est pas prêt à te recevoir. Mais aujourd'hui que tu peux venir, ça c'est vrai. Est-ce que c'est clair? Bon. Ou mi pene? Exactement le contraire. Ah, très très bien. J'achète. Très très bien.
Je voudrais peut-être dire que Sabbatai Zvi était un vrai messie.
Non, non, j'ai pas dit ça.
Ça, c'est dangereux.
J'ai pas dit ça. Je voudrais pas que vous l'entendiez.
Oui,
mais ce que j'ai dit est plus dangereux. Ça aurait pu être. Et que c'est la faute des Juifs qu'il était tordu. Mais c'est ça.
Il était tordu.
Bien sûr. Et complètement fou, si vous voulez savoir en plus. Parce que se prendre pour le messie, quand c'est pas vrai. Et vous comprenez le problème. J'ai pas fini. Hein? Oui, mais au début, c'est très lucidement qu'il a joué au fou. Et puis finalement, il est tombé dans le piège. C'est évident. Bon, c'est un autre problème. Mais oui, c'est un des exemples. Il y en a eu d'autres. Hein. Vous connaissez. Bon, enfin, peu. Le corvin, non? Mais.
Alors, combien, enfin, est-ce qu'il y a un minimum de personnes?
600 000. Très bien, c'est une bonne question. C'est-à-dire une société. Il y a un seuil minimum pour que ce soit une société. Très bien, une bonne question. Bien, alors on continue. Umipene qui madrigat Mashiach le malam et madrigat Eliyahu. Et par le fait que le niveau d'aide du Mashiach est plus haut que le niveau d'aide d'Eliyahu Hanavi. Et c'est Eliyahu qui était en train d'expliquer à Rabbi Shimon ben Levi ce sujet. C'est pourquoi il n'a pas interrogé le Mashiach lui-même. Parce que c'est Eliyahu qui doit expliquer ce qui est le Mashiach. Et ce que Eliyahu avait dit à Rabbi Shimon ben Levi, il va lui demander à lui-même. Atina, parce que sa réponse aujourd'hui je viens, Vedabarze au Mitzad Mashiach, et ça vient du Mashiach, cette réponse aujourd'hui je viens. Eliyahu ne peut pas dire aujourd'hui il vient, ça c'est le Messie qui revient. Okay? Alors donc Eliyahu doit se taire et laisser parler le Mashiach qui lui peut dire je viens. Oui. Attendez, je vais expliquer ça pour ceux qui ont lu les évangiles dans le texte. Une petite parenthèse, mais ne m'interrogez pas, ça ferait un chapitre entier. Oui, ici, c'est un texte qui vous explique l'expression Maranatha. Okay? Maranatha, ça ne veut pas dire tu es notre maître, ça veut dire notre maître vient Atta, c'est le mot romain. Okay. Bon, je referme le. Oui, je referme le. Umar Lato, chez Eno Tahatazman, qui ne dépend pas du temps. Eliaou, lui, est inséré dans les structures du temps, pas le Mashiach. Alors seul le Mashiach peut dire aujourd'hui. Parce que seul celui qui n'est pas soumis aux structures du temps peut dire aujourd'hui. Et alors ce serait aujourd'hui s'il y avait une société prête à le... Je me réfère à votre question. L'option de foi, c'est qu'il y a une société prête, préparée à... Bon. Uma chez Amar, chez Bishvil, chez Amar Shalom, Alecha Barlevaï, Aftar Lecha Olabicha Le Alma Deati. Et ce que le Messie a dit à Rabbi Shimon Lévi, la paix sur toi, fils de Lévi, je te promets à toi et à ton père et le monde à venir. Aïnou, Kemo chez Amarno Le Marla. Ça veut dire, comme nous avons dit plus haut, Kiena Mashiach Rak chez Iknou Marla Tu Madriga Yote Aïliona ou Madriga Trolamaba. Ça veut dire, le Mashiach, nous en avons besoin pour le Rolamaba. Le Mashiach lui a pas dit, je t'invite au temps messianique. Il dit, non, je te promets le monde à venir. Et est-ce que c'est clair? Où est la différence? Ou Mikivan, chez Rabbi Yoshua ben Levi, Hayalo Mitzad Ma'alato, Hibur et la Mashiach. Et parce que Rabbi Yoshua ben Levi méritait les temps messianiques. Chez Amar, Shalom Alecha Bar Levi, puisque le Mashiach lui a dit, bonjour, je veux dire, c'est un ami, quoi. On est du même monde. Il a dit, Shalom Alecha, comment vas-tu? Ils se connaissent. Moré qui est le Shalom, Bechibur, im Madrigat HaMashiach. Cela montre qu'il a un lien et il peut être en paix avec l'identité messianique. Bechar Beze Ptiachoto le Olam Haba. Par là même, il lui a promis le monde à venir. Ça veut dire celui qui mérite le niveau messianique, celui-là mérite le monde à venir. Il y en a d'autres aussi, mais c'est la règle. Parce qu'il sait, le Mashiach sait, Rabbi Shimon Levi est un ami à lui, alors il peut lui dire, eh bien, t'iras avec moi au monde à venir. Qui olam haMashiach aliado koneh olam haba. Parce que les temps messianiques, c'est par là qu'on acquiert le monde à venir. Ou mitzad Rabbi Shimon ben Levi, et du côté de Rabbi Shimon ben Levi, lo haya magiar biat haMashiach. Et v'adraba haya lo shalom. Vous avez un nom, hein? Lo haya meniat biat haMashiach. Du côté de Rabbi Shimon ben Levi, ça veut dire si tous les hommes étaient comme Rabbi Shimon ben Levi, le Mashiach serait venu. Pour Rabbi Shimon ben Levi, il est venu. Vous comprenez? Rabbi Shimon ben Levi était prêt. La preuve, c'est qu'il sait à qui il parle quand il demande est-ce que tu viens aujourd'hui? Vous comprenez ce que je veux dire? Quand est-ce que tu viens? On te connaît, quand est-ce que tu viens? Il faut qu'il le connaisse pour lui dire tu sais, on avait rendez-vous depuis 2000 ans. Est-ce que c'est aujourd'hui? Alors le Mashiach revient, lui dit oui, aujourd'hui. Et le Maharal explique aujourd'hui, si tous les Juifs étaient comme toi. Mais à peu près, pour toi, oui. Et alors, où ils se sont donné rendez-vous? Eh bien, pas sur la place publique, dans la caverne où était enterré Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que là-bas, il y avait rendez-vous avec Rabbi Shimon Bar Yochai depuis toujours. Vous voyez à peu près ce que je veux dire, derrière ces images. Okay, bon. Par exemple, souvent, je rencontre des gens, vous savez, on a entendu dire que le Mashiach est là et qu'il est dans une caverne. Alors, j'ai beau leur dire, Netzar Israël, page 138, ils ne comprennent pas. Okay. Ils cherchent, mais voilà la caverne. Okay. Vous avez compris ce qui se fait. Vadraba, et au contraire, Hayalo Shalom Bechibur Imo, Rabbi Shimon ben Levi aurait été un des familiers du Mashiach, Kaasher Amarlo Shalom Alecha, quand il lui a dit la paix sur toi, Bar Levi, fils de Levi, qui a Mashiach, hu achana le olam haba, car le Mashiach, ça veut dire la préparation au monde à venir, Kemoshe Amarlo, comme nous l'avons dit, Vechen Abiv Gamken, hu ben olam haba, et son père au lui aussi, le père de Rabbi Shimon ben Levi, mérite le monde à venir. Harshi Iskir et Shmo, puisqu'il l'a appelé fils de Lévi. De la même manière que nous disons de Moshe Rabbeinu, Ben Amram. Okay? Alors en disant Ben Amram, alors Amram aussi est dans le coup, si j'ose dire. Est-ce que c'est clair? Quand on appelle quelqu'un du nom de son père, ça veut dire que c'est grâce à lui que tu es ce que tu es. Okay? Donc ça marche avec. Donc, pourquoi c'est très important, quand vous êtes appelé à la Torah, de ne pas oublier ça. Okay? Un tel fils d'un tel. Parce qu'il n'y a pas d'un tel qui ne soit fils d'un tel. Sinon, le juif tunisien, vous vous rappelez? Non. Le suspendu. Non, fils d'une telle. Si, si, les deux. Il y a les deux. Il y a certaines brachot, il faut dire le nom de la mère. Et certaines, il faut dire le nom du père. En tant qu'il s'agit du monde à venir, il faut mentionner le père. En tant qu'il s'agit de ce monde-ci, il faut mentionner la mère. Parce que la mère, c'est, ça va de soi pour le monde à venir. C'est le père qui est en question. Et l'inverse. Puisque vous savez qu'on est fils de sa mère, c'est pas vrai. Alors, on avance. Et j'ai pas dit ça pour faire plaisir à Eva. Donc. Et alors, l'Echar, Haya le Mashiach, et c'est pourquoi il y a aussi au Mashiach un lien avec le père de Rabbi Shoar ben Levi, Gamken, aussi. Ulfichach Shneem, Gamhu, Gamabiv, et c'est pourquoi les deux, et lui et son père, Yeshlo Tzirou, Bechibur, El Olam, HaMashiach, il y a lien et relation au monde du Mashiach, les Gamre, complètement. En ce qu'il lui a dit, la paix sur toi. Ça, c'est important. Il a répété plusieurs fois. Qu'est-ce que ça veut dire que le Mashiach dit à quelqu'un la paix sur toi? Ça veut dire on peut vivre ensemble. Vous comprenez le problème? Ça veut dire, si c'est pas moi, c'est toi. C'est ça que ça veut dire. Shalom Alecha. Est-ce que c'est clair? Et c'est pourquoi il est préparé au monde à venir. Qui Olam HaMashiach ou Madrega. La halot les madrigat olamaba. Vous voyez que c'est pas pour rien que le Maharal insiste sur cette formule, parce que le monde du Messie c'est le palier nécessaire pour arriver au monde à venir. Parce qu'on pourrait croire qu'on peut faire l'impasse, qu'on peut économiser le monde du Messie. On peut pas. Si on passe pas par le monde du Messie, on peut pas arriver. Voilà. Et c'est, vous voyez, tous ceux qui disent, bon, parce qu'ils n'ont pas étudié ce problème, bien sûr. Ça veut pas dire qu'ils sont hérétiques. Simplement, ils n'ont pas étudié. Dit, mais vous croyez vraiment que c'est quelqu'un? Vous ne croyez pas que c'est une époque? Vous ne croyez pas que c'est un genre de vie? Vous ne croyez pas que c'est un personnel? Non, pas du tout. C'est quelqu'un, parce que c'est le quelqu'un de l'homme qui est en question dans ses problèmes. C'est-à-dire, c'est une manière d'être homme qui est l'homme réussi, l'homme authentique, qui s'appelle le fils de l'homme, l'aboutissement des engendrements, l'idolâtrie de la théologie chrétienne, c'est-à-dire, et ça c'est une divinité, alors que, vous comprenez le problème? Que c'est une divinité, alors on va tout à fait ailleurs, un dieu qui s'est fait homme, un homme qui se divinise, ça c'est du paganisme. Non, c'est la figure de proue de l'identité humaine, et c'est une manière d'être homme. Parce que si on disait c'est une idée, ça veut dire qu'on a peur que ça existe. On ne veut pas que ça existe, ça ne concerne pas le sujet, ça ne concerne pas la personne humaine. C'est quelqu'un et sa société. Est-ce que c'est clair? Et alors, pour ne pas tomber dans l'idolâtrie, pour nous permettre de ne pas tomber dans l'idolâtrie, eh bien, je dirais, la miséricorde de Dieu fait qu'il se cache. Parce que s'il se dévoilait, il y aurait un culte païen. Vous verrez tout de suite des juifs et des non-juifs avoir des photos sur la cheminée avec une veilleuse devant. Suivez mon regard et vous voyez. Et on m'a posé la question, et comment est le nom du Mashiach? Pas aujourd'hui, mais peut-être demain, je vous montrerai qui s'appelle Menachem, mais c'est pas celui qu'on croit. Hein. C'est dans la Gemara. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, et... C'est-à-dire, c'est ni l'un ni l'autre. Oui, vous avez compris le... Bien. Hein?
Il a quitté les corps.
Il a quitté les...
J'ai
pas entendu
parler. Il a quitté les corps, ça fait qu'il parlait pas.
Ben, on parlait des Corses, là, tout à l'heure. Mais tout simplement parce que c'est... Il aurait pu citer la Bretagne, il aurait pu citer l'Alsace, il aurait pu citer l'Occitanie, et il aurait pu citer la région de Sarcelles. Après tout, on pourrait avoir des revendications territoriales. Mais non, c'est tout simplement parce que quelques jours avant, il y a eu des explosions à Paris. Alors, je vois déjà la une à la télévision israélienne, et puis se demander, tout, qu'est-ce qui se passe à Paris? Vous savez, la nostalgie que les francophones d'Israël ont gardée pour les juifs de Paris, je n'avais aucune idée. Chaque fois qu'il se passe quelque chose à Paris, je dis, beau, qu'est-ce qui se passe à Sarcelles? Alors là... C'est celui-là, oui. Oui. Je vais le ramener en Israël. Et... Ah, il est arrivé? Et quand est-ce qu'il doit arriver? Non, vous parlez de qui? Non, parce qu'il y avait une espèce de mythe Je sais pas si je vais raconter ça à mon dernier voyage, c'est que jusqu'à présent, on avait le mythe du juif errant, et maintenant, on a le juif du mythe errant. Ma oui, c'est bon, ok.
Chut. Il a voulu dire que les Corses pensaient qu'un juif israélien.
Si tu veux, si tu veux. Mais ce qu'il a voulu dire essentiellement, c'est qu'il faut être sérieux. Ça veut dire que si effectivement Israël avait la puissance diplomatique, politique de la France, c'est-à-dire l'argent pour acheter le pétrole, eh bien, il pourrait parler de la Corse à la manière dont les Français parlent de ce qu'ils appellent des territoires. Ça veut dire qu'il faut être un peu sérieux, tout simplement. Je dis souvent, et on regrette terriblement de ne pas avoir une frontière commune avec la France. Parce qu'en 48 heures, ça serait réglé, cette histoire-là. Alors, je reviens au problème. Le problème corse, bien sûr. Et alors, on a juste une phrase à terminer. « Vidbaer lecha inyan » Et t'as été expliqué, donc, le sujet de ce thème, de Mahamar. Vem devari macher neemru ve mahamar azé. Et ces paroles qui ont été dites, dans cette étude, vem devari mourim, sont des paroles claires. En safek baem, il n'y a aucun doute, klal du tout, vertita et lefaresh. Et ne te trompe pas quand tu les expliques. Regardez l'humour du Maharal. Et c'est très clair, mais fais attention à ne pas te tromper. Ki devari macher neemru ve mahamar azé. Car tout ce qui a été dit ici, Hem hakol sikhliim sont des choses abstraites. Ça veut dire, ne cherchez pas des images. Okay. Est-ce que c'est clair?
Bon.
Kemo sheit ba'er lecha, pa'amim arbe, bedai baze. Et effectivement, nous sommes arrivés à l'heure. Okay, alors donc, c'est très bien. Je suis assez satisfait du. Oui. Je suis assez satisfait de ce rythme-là. Alors, je vous propose donc. Nous ayons encore une minute. Oui, c'est pas fini. Hein. Simplement, on va aérer un peu, si c'est possible. On peut ouvrir, là. J'ai demandé qu'on ouvre. Je vous propose alors que nous consacrerions demain et dimanche matin à terminer ce texte. Alors, on va essayer peut-être d'aller assez rapidement demain. Alors, prenez un peu de temps aujourd'hui pour le lire à l'avance, si vous voulez, de telle sorte que dimanche, nous puissions avoir plutôt une séance de questions et réponses, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui n'étaient pas là dans la semaine, qui pourront venir dimanche. Attendez, je voulais vous signaler une chose, ça sera peut-être affiché. Oui, bon, je ne sais pas où j'ai mis ça. Ah oui, ici. Écoutez, je dois partir.
Dans la fin du texte, ici, on retrouve les idées corses de M. Divina. Qui assiste toujours le visage de l'autre et pour la réponse à le dialogue entre le matriarche et en particulier pour le dernier colloque intellectuel français,
oui.
Après la conférence en biathlon, qui avait parlé de la double lecture et qu'elle était brillante, M. Lévinas a reproché à en biathlon n'avoir pas introduit dans son discours la moralité, le visage de l'autre, là.
Absolument, c'est-à-dire, je crois. Je comprends, comme je n'ai pas vu. Enfin, je n'ai pas bien sûr assisté, peut-être quand je lirai ces textes, mais je crois, tu pourras le confirmer peut-être, que c'est lié. C'est-à-dire, cette mise entre parenthèses de la moralité et l'athéisme s'avance. Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, une espèce de substitution de la légalité à la shrina. Et la légalité, même aussi au niveau de la lecture, c'est-à-dire la lecture sadducéenne. Il y a un terme en français qui exprime bien cela, le structuralisme linguistique. C'est-à-dire prendre le texte de la Bible comme exemple de ce paradoxe du structuralisme linguistique dont je vais vous parler en quelques mots, si vous voulez, qui est que, précisément, on va assassiner le quelqu'un là où il s'exprime le plus, dans la parole. Pourquoi ? Parce qu'il a eu l'imprudence de la mettre par écrit. Alors on vous montre les échafaudages de l'écriture et celui qui parle, vous voyez. Vous comprenez le problème ? Est-ce que c'est clair ? Attendez une minute, il y avait une question là. Non ?
Moi j'ai des problèmes avec le Messie et le Olam Abba. Parce que, est-ce qu'on ne le rencontrera que dans le Olam Abba ?
On n'a pas dit ça.
Bon, parce que ça c'est extrêmement important, parce que alors, c'est toute la culpabilité qui revient, ici c'est purgatoire, enfin je suis baptise.